Il était une fois un châtelain millionnaire qui n'aimait pas le camping, qui n'aimait pas les campeurs pourtant si pauvres. Je vous laisse raconter la suite, s'il te moral.
Moi, quand on me l'a raconté, cette histoire, j'y ai pas cru. Je me suis dit, attends, en France, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, cette histoire, en effet, c'est celle de la 90e fortune de France, selon le magazine Challenge, Alain Duménil, qui rachète un château et son parc de plusieurs hectares. Et dans ce parc, l'ancien propriétaire du château avait créé un camping. Alors, pas le camping des flots bleus ouverts de mai à septembre, hein, mais un camping à l'année avec des chalets en bois, où vivent des gens qui essayent de remettre le pied à l'étrier, des gens qui payent un loyer, donc quelque chose de très officiel. Sauf que le nouveau propriétaire ne veut plus de ce camping. Alors c'est son droit, il peut demander une procédure d'expulsion, ce qu'il n'a pas fait hein, pour l'instant à la justice. Mais dans ce cas-là, il doit payer le déménagement des locataires du camping. Alors que...
Bon, ça ne va pas lui coûter grand-chose, franchement, 3-4 mobilhomes, si c'est la 90e fortune de France, c'est
ça ? En tout cas, il ne l'a pas fait, et plutôt que de respecter la loi, il a fait venir, alors lui ou ses conseillers peut-être, hein, sur la propriété, des vigiles qui tous les jours, d'une manière ou d'une autre, mettent la pression sur les habitants du camping. Alors par exemple, c'est musique à fond en pleine nuit, diffusion toujours en pleine nuit, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rigolo, d'une bande-son de films porno, ou plus grave, des vols dans les mobilhomes, à tel point aujourd'hui que les habitants s'arrangent quand ils quittent le chalet, quand ils quittent leur chalet, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui reste à l'intérieur du chalet pour être sûr qu'il ne se fasse pas cambrioler.
C'est plus que du harcèlement.
Et la justice a même en sa possession un film sur lequel on voit l'un des vigiles sortir d'un des mobilhomes avec dans sa main plusieurs objets. Alors tout ça, moi, j'y croyais pas. En effet, c'est du harcèlement, moi, j'y croyais pas. Donc je suis allé voir, et à l'entrée du château, on voit rien. Il y a une grande grille, certes, mais derrière la grille, il y a une grande bâche, vous savez, les bâches de travaux vertes et bleues. Donc du coup, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur du château. Il y a écrit en rouge, propriété privée, défense d'entrée. Mais j'ai quand même rencontré un habitant du camping, enfin une habitante, elle s'appelle Mélanie. Elle a bien voulu me rencontrer, mais loin de ce château, dans la ville d'à côté.
Bon, on va aller faire ça dans ma voiture, l'interview ou ailleurs, je sais pas.
Bah, comme vous voulez, je sais pas, dans un café c'est peut-être plus confortable que dans une voiture, mais peut-être que vous avez pas envie de vous afficher avec un micro, enfin j'en sais rien, comme c'est un
trop.
Peu compliqué.
Ça tourne déjà.
Ouais, oui, ça tourne toujours.
Ouais, non, mais voilà, c'est une ville assez petite et souvent la sécurité se balade dans le coin, donc ils me connaissent bien. Il nous faut comprendre dès qu'ils nous croisent ou dès qu'ils nous voient avec un journaliste comme vous que ce serait mieux pour nous de se taire. Ils cherchent à mettre la pression pour que je parte, tout simplement, pour que j'abandonne mon petit chalet sans rien dire, comme une voleuse. Et moi, personnellement, ils m'embêtaient pas trop parce que, bon, je suis peut-être une femme qui est restée correcte avec eux, jamais un mot plus haut que l'autre. Donc jusqu'à ce jour-là, le soir, avant que j'aille me coucher, il m'avait pas trop embêté. Mais à 3h du matin, j'ai été réveillée par une explosion énorme. J'ai eu peur, comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur. Et on a découvert mon amie qui allait partir au travail à 4h du matin. Elle a vu qu'il y avait ces jeunes hommes sur notre terrasse. Donc ils étaient rentrés dans la parcelle, ils avaient mis une boîte de pétards où il y avait à peu près entre 200 et 300 pétards, des petits pétards, mais quand tout pète en même temps, ça fait une sacrée explosion. Et là, ils sont allés trop loin cette nuit-là, parce que moi, mon chalet, il est de bois. Et c'est vrai que depuis cette nuit-là, je me suis procuré un extincteur, de peur que mon chalet, qui est fait de bois, brûle en même pas 2-3 minutes. Donc moi... Pour la première fois de ma vie, j'étais bien contente de ne pas être maman. Et on n'est plus qu'une petite dizaine de familles à vivre et on était près de 80 avant. Donc vous voyez, en un mois et demi, deux mois, il y a les trois quarts des gens qui ont fui. Je comprends pas qu'un humain puisse emmerder un autre humain à ce point-là. C'est dommage. Bon, il y a bien pire, comme je dis, hein. L'église.
Alors peut-être que comme tous ceux à qui j'ai raconté cette histoire, vous vous dites mais que fait la police ? Mélanie a porté plainte. Alors pour le harcèlement, je pense qu'il n'y a pas photo. Même les parents de Mélanie doivent montrer leur papier d'identité quand ils vont la voir. Mais là où ça se corse, c'est que si le chalet appartient bien à Mélanie, le terrain, lui, appartient à Alain Duménil. Et Mélanie n'est pas la seule dans ce cas-là, je veux dire, pas la seule à vivre sur un camping. En France, on estime qu'ils sont à peu près 100 000, peut-être un peu plus. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus le Claude du coin qui vit au camping. Mais comme on dit pudiquement dans les études de sociologie, les accidentés de la vie.
Je voulais trouver une vie plus calme, plus sereine. Je viens de Paris. Pendant toutes les années où j'ai travaillé, je mettais régulièrement de l'argent de côté. Donc au final, j'avais un 42 000 euros de côté. Moi, je voulais acheter sur 10-15 ans, on va dire. Mais aucune banque m'aurait suivi. Moi, j'ai un genou qui m'empêche de continuer à faire mon métier. Donc je cherche un travail adapté à mon handicap. Et mon ami a travail. Donc on vit très bien avec son revenu.
Si on va passer par là.
Je compte aller. Moi, l'idéal, ce que je voulais faire, on se donnait encore 5-8 ans. On économisait un petit peu tous les mois. Parce que le train de vie ici, l'air de rien, il est quand même un peu moins cher que dans des grandes villes. Et on achetait un terrain vierge ou un terrain avec la maison dessus. Moi, j'ai mis 13 ans de travail là-dedans, 13 ans d'économie de travail. On me dit de l'abandonner parce qu'un nouveau propriétaire est arrivé. Et je suis désolée, moi j'ai acheté mon chalet, donc il n'appartient pas à Monsieur Duménil. Ou sinon, là je comprends plus rien. On m'a volé de 42 000 euros dès le départ. Il a 413 millions d'euros. Moi je vis avec un peu plus de 1 000 euros par mois. C'est vrai que c'est ridicule pour cet homme. Je suis une petite personne, je suis rien. Je paye pas beaucoup d'impôts, nanana. Et ça, c'est le pouvoir de l'argent. Et c'est dommage parce que c'est dommage.
On peut marcher un peu?
J'ai même pris la défense de cet homme quand on a appris qu'il avait acheté le château. Je fais le vénard. Moi, si j'avais les moyens, je me le serais peut-être offert aussi. Il est magnifique. C'est un homme qui est sûrement aussi très intelligent, qui aime beaucoup l'histoire. Il doit avoir une culture de l'histoire.
Vous savez, vous ne le connaissez pas?
Il a écrit un livre, je l'ai vu sur internet, j'ai failli l'acheter. Et puis bon, comme j'ai une petite dent contre lui quand même, je me suis dit bon.
Franchement, un couvre-feu sur un camping près d'un château, c'est une histoire de fou. Joy, sûrement vous qui avez écrit là récemment un livre, grosse œuvre sur notre rapport, bon certes fictionnel et pas tant que ça, notre rapport à la propriété privée, à l'habitat. Là, c'est cette histoire de mobilhome contre le château, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est marrant parce qu'en fait, la lutte des classes, c'est la lutte des habitations. Quoi. Il y a d'un côté le gros château en pierre, le manoir bien installé sur sa terre. Puis de l'autre côté, il y a les mobilhomes, les cabanes, l'habitat nomade et précaire.
Avec en même temps des élus, effectivement, une gendarmerie qui reste étrangement muette. Est-ce que ça vient aussi de l'influence?
Non, il y a aussi, alors très certainement, hein, je veux dire, 90e fortune de France, c'est pas rien. Mm-hmm. La gendarmerie fait ce qu'elle peut, mais je vous dis, il y a ce problème juridique. Et puis alors, ce qui s'est passé en plus, c'était une fausse fin là, c'est que deux jours après que j'ai rencontré Mélanie, elle m'a laissé un message assez affolé sur mon téléphone et j'avais envie de vous faire écouter ce message tout simplement.
Hier à 21h36.
Oui, bonjour Thomas, c'est Mélanie. Il y a du nouveau ici, c'est que mon amie Sandrine ne peut même plus rentrer dans mon chalet. J'ai appelé la police de Beauvais, ils peuvent plus rien faire. Donc je suis toute seule dans ma maison. Sandrine est chez mes parents à côté, à quelques kilomètres d'ici, heureusement. Mais elle pourra plus jamais rentrer ici, logiquement, puisque malheureusement le chalet est à mon nom, les factures sont à mon nom. Voilà, donc je voulais vous mettre au courant pour si jamais vous avez pas fini l'article qui doit passer samedi matin sur France Inter, rajoutez ça pour moi. Bonne soirée à vous et je vous mets au courant des événements dans les jours à venir. Bonne soirée, au revoir Thomas.
Fin des messages.
Non mais alors Thomas, que faire? Ne rien dire, ne pas en faire les émissions, le dalle, pas le dalle
En tout cas, moi j'ai joint, nous au moins on parle, eux parlent, mais du côté d'Alain Duménil, moi j'ai joint sa société, on m'a dit on va vous rappeler monsieur, on m'a pas rappelé. J'ai joint son avocat, on m'a dit on va vous rappeler monsieur et on m'a pas rappelé. Et je comprends, hein, c'est vrai que c'est plus facile de se planquer derrière une bâche de travaux bleus et vertes que de prendre la parole face aux médias quoi, dans ces cas-là.
Et décision de justice à suivre?
Il y a une décision de justice lundi prochain. Mais a priori, c'est pas gagné parce que ça va très certainement être renvoyé à une autre. Donc ça va laisser encore 15 jours, 3 semaines pour continuer à mettre de la pression jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus personne dans ce camping.